Nous allons maintenant donner la parole à Kadi Koïta, représentant du GAMS.
Juste pour rappeler que le GAMS, c'est le groupe pour l'abolition des mutilations sexuelles féminines et des pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants. Nous sommes une association qui est basée à Paris au niveau de son siège social national, mais nous avons des antennes dans différentes régions françaises. On aura l'occasion de peut-être de revenir sur ces régions où nous sommes implantés lors de la présentation. Si j'ai souhaité que ce soit Kadi Koïta qui commence, parce qu'en fait elle va aborder plutôt la question monde, et moi je vais essayer de me centrer effectivement par rapport à la France et par rapport aux différents résultats qu'on obtient. Alors nous on mène à la fois de l'information, de l'éducation, de la communication en direction des populations directement concernées, dans les centres de protection maternelle et infantile, dans les centres de planification et d'éducation familiale, centres sociaux, maternité, enfin voilà. On touche un grand et vaste public au niveau des populations concernées. On a également fait également beaucoup de formations initiales et continues des professionnels santé, justice, police, mais aussi travailleurs sociaux sur ces thématiques. On travaille aussi énormément à l'international et on a un centre ressources à Paris qui est le seul centre ressources au niveau français et au niveau francophone qui reprend toute la documentation sur ce sujet comme on existe depuis 1982. Ça nous donne quand même un certain recul par rapport à l'existant et tout ce qui se fait dans ce domaine depuis fort longtemps. Et voilà, et on accompagne aussi des programmes européens, voire internationaux, ce qu'on est la section française du Comité interafricain sur les pratiques traditionnelles affectant la santé des femmes et des enfants, ce qui veut dire qu'on a 28 homologues dans, aujourd'hui, 28 pays africains, mais à peu près autant dans les différentes diasporas. Ça va du nord des États-Unis en passant par l'Australie, la Nouvelle-Zélande. Et on aura l'occasion d'y revenir sur d'autres pays. Je pense que Kadi va faire son PowerPoint.
Bonjour à tous. Merci de m'avoir invité à cette journée très importante. Ce matin, j'ai écouté certaines interventions qui n'étaient pas du tout mal, qui étaient très bien d'ailleurs. Alors, Isabelle va parler de tout ce qui est national. Je vais essayer un petit peu de parler de ce qui est à l'international un peu. Comme on dit, il y a plus de 125 millions. Ça, c'est pour un peu atténuer les... Mais il y a plus de 150 millions de femmes dans le monde qui ont subi ces mutilations. Et la majorité de ces femmes vivent dans 29 pays africains, du Moyen-Orient et dans d'autres pays qui ont subi ces formes de mutilation sexuelle, qui aujourd'hui à l'international on dit mutilation génitale féminine. Je vous assure que pendant des années, il y a eu pas mal de débats sur cette terminologie. Nous en France, on soutient mutilation sexuelle, mais ailleurs, c'est mutilation génitale féminine, ou bien il y en a qui s'amusent même à nous mettre cutting. Parce que couper. Parce que tout simplement, vous m'excusez, mais il y a des gens qui s'amusent dans ce monde à dire « oui, c'est pas une mutilation, c'est juste couper ». Parce que c'est des gens qui jouent beaucoup avec le relativisme culturel pour dire qu'il faut faire attention aux mots, il faut faire attention à ce qu'on dit pour ne pas frustrer les Africains. Et à un moment donné, ça nous a fait tellement mal parce que nous disions ben, « nous ne sommes pas encore capables de penser pour nous-mêmes, de souffrir pour nous-mêmes ». Et surtout, de sentir notre propre souffrance et que c'est les autres qui le sentent pour nous. Et ce débat est vraiment énorme en ce moment. Alors nous, on a décidé de ne plus jouer dans ce débat, pas plus tard que le 22 octobre à Rome. Maurice Andakouyaté du Comité interafricain en a beaucoup parlé pour dire que ce serait bien de s'arrêter à une seule terminologie et d'arrêter de jouer avec ça. Mais bon, on dit qu'il y a 30 millions de filles qui risquent d'être victimes de ces mutilations au cours des 10 prochaines années. Mais disons quand même que ces mutilations sont en recul dans un peu plus de la moitié des 29 pays étudiés. Ça, c'est des chiffres de l'UNICEF ce que je vais vous donner, c'est des conclusions des études que l'UNICEF et le FNUIAP dans le Joint Programme qui ont fait dans tous ces pays-là. Dans la moitié des pays disposant de données, la majorité des filles subissent ces mutilations sexuelles féminines avant l'âge de 5 ans. Il faut dire qu'aujourd'hui, dans nos pays, pas mal de petites filles sont excisées à 3 jours de naissance et à 7 jours de naissance. Donc il y a quand même quelque chose qui se passe dans nos têtes, parce que la mutilation avant, c'était un rite de passage. Et donc aujourd'hui, un rite de passage qui se fait à 3 jours de naissance, il y a des questions à se poser. Par exemple, en Égypte, en République centrafricaine, en Somalie et au Tchad, au moins 80% de ces filles sont excisées entre 5 et 14 ans. À Djibouti, Érythrée, au Niger, au Sénégal et en Somalie, plus d'une fille sur 5 a subi une infibulation, la forme la plus radicale de ces pratiques. Donc je ne vais pas vous expliquer ce que c'est qu'une infibulation, je pense que tout le monde le sait. C'est vraiment quelque chose où nous on dit que c'est des femmes qu'il faut ouvrir, refermer au gré des naissances et au gré des rapports et du plaisir du mari. Ce recul est particulièrement net dans certains pays présentant une prévalence relativement faible à très faible. Par exemple, au Bénin, en Irak, au Libéria, au Nigeria et en République centrafricaine, la prévalence de ces pratiques chez les adolescentes a chuté de moitié. Chez certains pays à forte prévalence, on peut observer également une baisse au Burkina Faso et en Éthiopie. Les pratiques ont reculé de 19 à 31 points. Pour le Burkina Faso, je dirais qu'aujourd'hui, c'est une référence dans la lutte. C'est vraiment un pays où tout le monde est mobilisé, du gouvernement au plus petit. En revanche, aucun changement à Djibouti, en Gambie, Guinée-Bissau, au Mali, au Sénégal, en Somalie, au Soudan, Tchad et au Yémen. Alors, là, j'accélère. Disons que depuis quelques années, il y a eu beaucoup de travail qui a été fait au niveau politique. Et le 20 décembre dernier, à l'Assemblée générale des Nations unies à New York, les 193 membres de l'ONU ont voté à l'unanimité contre les mutilations génitales féminines, une première dans l'histoire de la lutte contre l'excision. Ils ont voté une résolution. Et cette résolution va faire valoir la volonté politique au plus haut niveau, rend finalement explicite une considération de ce fléau comme une question à aborder dans les forums de discussion considérés comme les plus importants, pas seulement problèmes de femmes, qui sont typiquement considérés de second ordre, qui donne un outil aux activistes qui demandent aux institutions responsables pour ces questions des éléments particulièrement relevants. L'article 4 de la résolution exige le développement ou la révision de la législation nationale contre les MGF. L'article 2 demande le développement des compétences et des capacités pour la mise en œuvre de la loi. L'article 12 parle de renforcer la capacité des institutions nationales et locales pour surveiller. L'article 9 parle entre autres du le renforcement de la capacité des acteurs locaux et entreprendre des activités de plaidoyer pour la diffusion des connaissances sur les outils législatifs. Il faut dire que cette résolution est le résultat de 12 ans de campagne, de lutte, de collaboration avec une dame, Madame Emma Bonino. À l'époque, elle était députée européenne. Je l'ai rencontrée en 2000 dans son bureau au Parlement européen. Et depuis lors, elle ne s'est ménagée nullement avec des conventions, des résolutions d'abord au niveau de l'Union européenne et à la fin, cette résolution. Et cette campagne a été menée en collaboration avec Euronet FGM, qui est la plateforme européenne sur le sujet, avec le comité interafricain qui travaille sur les 29 pays africains, avec le soutien d'une dame qui est Madame Compaoré. Quand je parle du Burkina, ce n'est pas pour rien. Elle a été l'ambassadrice de cette campagne et elle a fait le plaidoyer partout où nous avons été, surtout dans les hémisphères des Nations Unies, pour que cette résolution puisse aboutir. Son pays a été le pays qui a porté cette résolution, qui l'a présentée à l'Union africaine et après aux Nations Unies. Cette campagne est aussi faite par d'autres associations, notamment la Palabre, que j'ai créée avec des amies belges et françaises, et parce que tout simplement la violence faite aux femmes nous tient tellement à cœur que notre idée c'est de créer des centres d'accueil et d'hébergement. Notamment le premier est en train de voir le jour au Sénégal, dans la région de Thiès, pour accueillir et héberger les jeunes femmes et les jeunes filles victimes de violences. Juste deux mots pour conclure. Comme je disais, merci pour m'avoir invité à cette journée. Journée qui est autour d'un fléau mondial, qui sont ces violences dans le monde, ces violences sont universelles. Ces violences sont dans toutes les sociétés, dans toutes les classes sociales. Aujourd'hui, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on a l'impression que les mentalités sur les violences n'ont pas suivi le progrès de la médecine, n'ont pas suivi le progrès des technologies et que les mentalités continuent de penser que c'est très important pour une femme d'arriver vierge au mariage dans certaines communautés, que le devoir conjugal c'est le summum, que le paradis ne peut être gagné qu'à travers le mari. Bref, la violence reste est toujours universel. Certes, il y a beaucoup de choses, de conventions, de résolutions, de dispositifs à tous les niveaux, politiques et société civile, mais je ne veux pas être trop négatif aujourd'hui avec tout ce que j'ai entendu ce matin. Mais souvent, la réalité est bien triste et des fois dramatique. Encore aujourd'hui, en 2013, la volonté ne manque pas, la volonté politique ni la volonté de tous. Mais je pense surtout aussi que les croyances, les mythes ont fait que beaucoup de gens ont peur du rejet, d'être exclus par leur société, que ces violences continuent à être sévies. Et je pense qu'il y a une chose qu'on devrait continuer à faire, qu'elle soit dans les écoles, dans la rue et dans les médias. C'est l'éducation. L'éducation, l'éducation. Il n'y a pas autre chose à faire. Pour changer les mentalités, il faut bousculer les choses, bousculer les mentalités, donc faire de l'éducation. On voit bien plus violence dans les médias qu'autre chose. Alors quand on me dit, il faut faire attention, comment parler aux jeunes, eh bien moi, on me fait rigoler. Voilà. Ma petite participation a été dans toute cette campagne, depuis 30 ans que je suis au GAMS, disons 32 ans maintenant, avec les copines qui sont là, il y en a ici dans la salle, de Champagne-Ardenne et de Paris. Le GAMS fait un travail que nous, femmes africaines, au début, nous étions contre toute forme de législation et de procès. Et depuis 12 ans, je suis une des pionnières qui pousse pour que la législation ait lieu et qu'elle soit appliquée. Parce que tout simplement, l'engagement des gouvernements, c'est de faire des lois et de les faire appliquer. Et de faire en sorte que nous, nos dirigeants africains, oublient un peu leur fauteuil de pouvoir et penser à la population, parce que les mutilations sexuelles ne sont pas une fatalité. C'est un fléau, comme toute forme de violence faite aux femmes. Merci.
Merci encore une fois, Kadi Koïta, pour ton témoignage qui nous transcende à chaque fois énormément. Et nous allons donner maintenant la parole à Madame Isabelle Gillette Faye, qui est aussi également du GAMS.
Donc là, je reprends la parole. Je remercie Kadi parce que, bien sûr, comme d'habitude, ça a été extrêmement brillant. C'est toujours difficile de passer après Kadi, mais bon, on va essayer. Hein, il faut bien, il y a un avant et il y a un après caddie. Voilà. Donc moi, je fais l'après, là. Je fais le service après-vente. Alors, tout à l'heure, le professeur Henri-Jean Philippe vous a parlé de cette étude qui a été menée par l'INED, l'Institut National d'Études Démographiques, par deux jeunes chercheuses, Armelle Andreau et Marie-Lès Lingan. Ressortait de leur étude, et ça c'est important, qu'il y a environ 53 000 femmes résidant en France qui ont subi cette pratique des mutilations sexuelles féminines. Concernant leurs filles, 11% d'entre elles sont concernées par les mutilations sexuelles féminines. Donc elles ont été victimes, et 30% des enfants sont encore à risque. C'est les 3 sur 10 évoqués tout à l'heure. Mais la bonne nouvelle, parce qu'il faut quand même, quand on parle des violences faites aux femmes, maintenant il faut quand même qu'on essaie de temps en temps d'avoir des bonnes nouvelles, parce qu'autrement c'est trop lourd à porter, à entendre, et après on finit par ne plus... on perd confiance, voilà, dans ces combats. Donc ça veut dire qu'il y a environ 60% des enfants qui sont protégés. C'est-à-dire que le fait de pouvoir vivre en immigration sur le territoire français, on a des parents qui s'en saisissent et qui s'en servent pour protéger les enfants de l'excision. Donc sur les centres de protection maternelle et infantile au début des années 80, quand on avait grosso modo 70 à 80% des fillettes concernées ou à risque, là le fait qu'on soit à... j'ai envie de dire 60% de fillettes qui sont protégées me paraît quand même quelque chose d'intéressant. Alors, à l'échelle française, on observe quand même que globalement, sur le plan macro, effectivement, les pratiques reculent. Le professeur Henri-Jean Philippe a commencé à en parler. On s'aperçoit qu'il y a des prévalences qui peuvent être différentes d'une région française à l'autre. Et comme je pense que vous venez tous de régions françaises différentes, c'est pour ça que je voudrais insister sur ce point. Alors, ce qu'on observe d'après nos observations et nos analyses, c'est que dans les pays où ces pratiques sont assez peu répandues, cela ne s'arrête pas aux frontières nationales. Les mutilations sexuelles féminines sont liées aussi à certains groupes ethniques. Donc il est essentiel, et ça a été souligné lors du premier exposé de l'après-midi, et je pense que c'est aussi le message de Caddy, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des approches complémentaires, des approches qui concernent à la fois la prévention, donc tout le travail qui peut être fait en aval pour empêcher ces mutilations sexuelles féminines, mais aussi la nécessité d'intervenir en amont pour réprimer à partir du moment où la protection des fillettes n'a pas pu être garantie. Parce que ça, c'est aussi une façon de faire passer le message, l'interdit. Je ne reprendrai pas ce que Caddy a dit, elle l'a dit avec suffisamment d'efficacité. Voilà. Alors, si on s'intéresse aux régions plus particulièrement concernées, en ce qui concerne la France, c'est essentiellement la région Île-de-France qui est ici et la région du nord de la Seine. En fait, voilà. En fait, les deux régions concernées, c'est Île-de-France et quand on monte plus qu'on continue la Seine, qui se jette dans la mer, on arrive à la Haute-Normandie. Donc, vous voyez, c'est ces deux régions-là les plus concernées. Toutefois, ça suffit pas. L'Île-de-France aussi est la région française très probablement la plus concernée. Mais quand vous regardez l'Île-de-France, donc qui est quand même, il y a quand même une région assez importante et assez dense, les deux départements les plus concernés sont Paris et la Seine-Saint-Denis. En revanche, on a aussi des populations présentes dans les Yvelines, le Val-de-Marne, le Val-d'Oise et les Hauts-de-Seine, et de façon moindre dans l'Essonne et dans la Seine-et-Marne. Donc en fait, à retenir pour faire simple, l'Île-de-France qui est particulièrement concernée et la Haute-Normandie. Ça, c'est au niveau de l'échelle française. Mais ça ne suffit pas non plus. Parce qu'on a des populations qui sont... on a des populations qui sont arrivées effectivement majoritairement au début des années 80, dans le cadre du regroupement familial, quand il s'agit des mères et quand il s'agit des petites filles qui sont arrivées. Mais ça, c'est valable pour les populations majoritaires en France, qui sont les populations sénégalaises et maliennes. Maintenant, nous avons une troisième population qui est de plus en plus présente sur notre territoire, qui sont les communautés guinéennes. Et la différence des communautés guinéennes par rapport aux deux précédentes, maliennes et sénégalaises, c'est qu'elles s'implantent dans des régions jusqu'à présent peu ou pas concernées par la situation de l'immigration. Et donc, on se retrouve maintenant avec tout le Grand Ouest. c'est-à-dire c'est le Poitou-Charente, Pays de la Loire, la Bretagne, qui sont concernés par ces populations. De plus en plus, moi je rencontre des j'en suis à la deuxième formation en l'espace d'un mois de la région Limousin. C'est pour vous montrer qu'il y a aussi encore du travail. Champagne-Ardennes, qui est aussi une région, Nord-Pas-de-Calais, on en a parlé un peu, Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Toutes ces régions ont à la fois des implantations anciennes, des populations plutôt originaires, donc du Sénégal, du Mali, des implantations plus récentes de populations notamment originaires de Guinée ou de Côte d'Ivoire, et aussi la population égyptienne qui n'est absolument pas à négliger, qui était très présente en Provence-Alpes-Côte d'Azur et qui commence actuellement à monter au niveau du territoire francilien. Donc vous voyez, il y a une espèce aussi les populations concernées s'étendent aussi sur le territoire national et il est intéressant d'en tenir compte. Alors, je voudrais finir là-dessus parce que je ne voudrais pas garder trop longtemps la parole. Voilà. Quand on s'intéresse aux populations concernées, là, c'est Kadi vous a présenté les derniers chiffres de l'UNICEF. Ils sont parus au mois de juillet dernier. Là, je viens de recevoir le dernier rapport de l'USAID ce matin. Donc là, on a des chiffres. Actuellement, on est sur des résultats des études qui ont été menées depuis une trentaine d'années. Donc ça veut dire qu'on commence à avoir quand même des résultats assez intéressants. Toutefois, on a une particularité en ce qui concerne la France. Nos migrants viennent majoritairement de nos anciennes colonies, ça c'est pas nouveau. Mais comme vous le voyez, l'Afrique occidentale française, elle traverse différents pays. Alors traditionnellement, on a des migrants qui viennent de ce qu'on appelle la région du fleuve Sénégal, donc ils traversent maintenant trois pays, la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Voilà. Donc ils viennent d'un espèce de triangle. On retrouve Kaï côté malien, Séli Babi côté mauritanien et Bakel, Matam ou Tambacounda côté sénégalais. Donc en fait, ce qu'on a remarqué en étudiant cette fois-ci, c'est-à-dire que les études reprises depuis 30 ans, les études démographiques et de santé reprises depuis 30 ans, montrent qu'en fait, si on s'en tient à la nationalité des personnes, ce n'est pas très éclairant en ce qui concerne les résultats. En revanche, si on s'intéresse à l'ethnie des personnes, on commence à avoir des résultats plus fins. Et si, en plus de la nationalité, l'ethnie, on tient compte des régions d'origine des populations, on a encore des chiffres beaucoup plus précis. Et il se trouve que sur cette région dont je viens de vous parler, qui traverse trois pays, c'est là où la prévalence n'a pas diminué depuis 30 ans. Donc en France, on a une mauvaise loupe, un mauvais prisme, c'est-à-dire que à l'échelle du Mali, à l'échelle du Sénégal, à l'échelle de la Mauritanie, la prévalence des mutilations sexuelles féminines diminue, mais dans la région d'origine qui traverse ces trois pays et d'où viennent majoritairement nos migrants, ce sont les régions les plus conservatrices et là, il n'y a absolument aucun progrès enregistré. Donc oui, c'est vrai que nos collègues qui travaillent dans les pays d'origine ont raison de dire que ça avance, que ça recule, etc. Sauf qu'au final, nous, en France, on a une vision un peu déformée des choses. En France aussi, commencent à arriver des populations qu'on connaît moins, notamment les populations qui viennent anglophones, qui viennent de Gambie, du Nigeria aussi, sur lequel je voulais attirer votre attention. Et je conclurai là-dessus. On a quand même une vision très afrocentrée lorsqu'on parle des mutilations sexuelles féminines. Pourquoi on a cette vision très afrocentrée ? Parce que l'Afrique est le seul continent où on a des données chiffrées et précises sur le nombre de mutilations sexuelles féminines. À partir du moment où on aura des données chiffrées dans d'autres pays, on est un certain nombre à être convaincus qu'on s'apercevra que les mutilations sexuelles féminines dépassent tout à fait le continent africain, qu'il y a d'autres régions du monde où c'est pratiqué. Mais comme l'a dit le professeur Henri-Jean Philippe tout à l'heure, il faut se donner ce regard d'une demi-seconde. Si on n'a pas ce regard d'une demi-seconde, on ne peut pas se rendre compte qu'il y a des femmes qui peuvent avoir subi des mutilations dans d'autres régions du monde et pas seulement en Afrique. Voilà. Et donc, je pense que le plus important, c'est de comprendre que sur tous les continents, il y a des femmes qui se battent et des hommes qui se battent contre les violences faites aux femmes. Et je pense que c'est le moindre qu'on puisse faire de les rejoindre et de rejoindre le grand mouvement des insoumises. Voilà, je vous remercie.